Jérémy Ribourel, donc, je vous présentais en début d'émission comme président du Narbonne Volley. Le club, alors un club qui a quand même pas mal d'années et de décennies sur la ville de Narbonne.
Il est né en 1963.
1963. Donc on a plus de 50 ans. Bon. Alors justement, c'est presque, alors je dirais pas curieux, mais c'est un peu surprenant dans un pays de rugby comme chez nous d'avoir un club qui existe d'une part, mais surtout qui perdure de telle façon.
Alors je pense que la naissance c'est dû beaucoup à la plage, parce que je crois qu'on a joué au volley sur la plage de Narbonne plage.
Oui, c'est vrai que c'est un sport de plage, ouais.
Et puis que les gens ont eu envie de continuer la saison finalement et de jouer l'hiver, donc évidemment en salle.
Oui. Et alors donc ce club a gravi les échelons, il est parvenu aujourd'hui d'ailleurs, le Narbonne Volley est le seul club narbonnais qui est dans le top national.
Exactement, on est en première division depuis une douzaine d'années, avec cette difficulté de d'y rester parce qu'on joue le maintien chaque année, avec le budget qu'on avait pu réunir jusqu'à maintenant, avec notre salle du Palais du Travail.
Oui, trop exigu quoi, en fait.
Limité, puisque quand la salle est pleine, après vous pouvez pas avoir d'autres spectateurs, et notamment pour recevoir aussi tout ce qui est toute la partie hospitalité de façon correcte et prestigieuse.
Oui, on va revenir là-dessus pour expliquer un peu à nos auditeurs comment ça fonctionne. Mais vous évoquiez justement, Jérémy Ribourel, le financement dans une ville qui n'est pas très industrialisée. C'est la même chose pour tous les sports, y compris le rugby. Comment parvenez-vous justement à financer ?
Eh ben, moi j'estime que le sponsoring doit avoir un retour direct. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui viennent sponsoriser les clubs pour faire plaisir, pour faire partie de la vie citoyenne narbonnaise, de la vie économique narbonnaise. Ça peut être une bonne raison, mais c'est pas suffisant pour financer un club. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de vendre des prestations, c'est-à-dire de proposer à nos sponsors soit de l'hospitalité, donc pour inviter leurs clients, leurs équipes et leur faire de la cohésion d'équipe ou de la relation client. Et puis pour certaines marques comme les marques les plus connues sur la ville ou les enseignes nationales, ben pour se faire connaître et faire savoir qu'elles sont là, donc autour du terrain, mais avec beaucoup de retours, je dirais, ce qu'on appelle maintenant dans le sponsoring l'activation, c'est-à-dire que j'ai pas seulement mon panneau, mais je vais avoir des gens qui sont les spectateurs qui vont venir dans mon commerce ou fréquenter mon commerce parce que le club va leur donner une raison de le faire.
Oui, par rapport donc au sponsoring traditionnel qui était un échange de notoriété, finalement, on donnait de l'argent contre de la notoriété. Là, vous êtes vraiment dans la notion d'offrir un service.
Tout à fait. On veut offrir un service pour pouvoir durer, tout simplement, pour que ce service il devienne indispensable aux entreprises et que ça finance le club durablement.
Et alors, quand on dit service pour des sponsors, on pense immédiatement à VIP, aux personnes importantes, puisque c'est ce que ça veut dire en anglais. Et il y a le problème, justement, de l'accueil, le problème logistique de l'accueil. Et c'est là où les choses, vous avez une perspective devant vous qui s'ouvre, si je puis dire, en même temps qu'on va ouvrir l'aréna de Narbonne.
Tout à fait. On va se retrouver avec cet outil qui va nous permettre de recevoir les gens dans les meilleures conditions et qu'on puisse être comparé à ce que fait ce que font les grands clubs de la région comme l'USAP, comme le Stade Toulousain, comme le club de hand ou à balle à Montpellier ou de rugby, voilà, qui ont basé tout leur développement là-dessus. Évidemment, on est allé voir comment ils faisaient et puis on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient pour financer notre club.
On va y revenir et vous allez nous dévoiler quelques pistes, mais restons sur... Alors, le volley en France, c'est pas un sport très, très médiatisé. On s'aperçoit, lorsqu'on voit la carte de France des 14, hein, c'est comme le top 14 en rugby, elle est, inégalement répartie sur le territoire. Le sud est quand même bien représenté, la Bretagne, l'ouest, mais par exemple, très peu l'est.
Alors, je pense que c'est pour les mêmes raisons que la naissance
parce
du club
de Narbonne.
Parce que la mer
est loin.
Parce que vous avez sur toute la côte atlantique beaucoup de tournois de beach l'été.
Ouais.
Donc, je pense que de la même façon, c'est un prolongement de tous ces gens qui pratiquent le volley sur la plage et puis après de pouvoir en faire l'hiver. Et de la même façon, au bord de la Méditerranée. Hein, je pense que c'est cette logique-là qui a fait que ces clubs historiques sont pas loin de la mer.
Oui, donc si vous voulez chercher du volley, cherchez les plages.
Voilà.
Ça serait un peu le slogan. Et alors, le sport, ce sport, le volley, est devenu aussi un sport professionnel, à savoir les joueurs sont des professionnels aujourd'hui.
Ah, tous les joueurs sont des professionnels, et puis on a un centre de formation pour faire devenir des jeunes joueurs des professionnels.
Oui, c'est-à-dire que là, on est passé à l'échelle aussi supérieure, dans la mesure où, bon, c'est pour ça qu'il faut du financement, on a des gens qui sont spécialistes, qui vivent de ça, et qui, forcément, on attend d'eux, on a des exigences envers eux.
Tout à fait, c'est un salarié, donc il a des objectifs, à nous de mettre les moyens pour qu'il puisse les atteindre, mais c'est évident qu'on a une certaine exigence.
Oui. Et comment ça se passe? On a l'image, pour un sport comme le football, de ce qu'on appelle le mercato, on a repris le terme espagnol, c'est-à-dire le marché, en fait, des joueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'identique au niveau du volley?
Ah, c'est exactement la même chose. Vous avez des agents de joueurs qui vous proposent un catalogue avec les joueurs qui sont dans leur écurie. Et puis ensuite, vous renseignez sur la saison que vient de faire ce joueur, sur les saisons qu'il a fait avant. Vous trouvez des joueurs avec qui il a joué ou des entraîneurs qui l'ont entraîné pour avoir une petite idée du caractère. Et puis après, vous avez toute la partie statistique qui est accessible à tout le monde et qui permet de voir les stats du joueur. Mais parfois, les stats, c'est pas suffisant. Il faut aussi interroger quelques camarades et avoir des infos. Et puis ensuite, vous avez l'aspect... Je dirais état physique du joueur, donc ça aussi c'est des informations qu'on va chercher. Et puis le mercato, comme vous appelez, il pourrait en général il démarre à la fin de la saison, à partir du 15 mai, et puis il s'étale jusqu'à ce que l'équipe soit bouclée fin juillet. Moi j'ai un entraîneur, Guillermo Falasca, qui a pratiquement fait la moitié de son recrutement au mois de décembre. Entre décembre et janvier, il a choisi les joueurs qu'il voulait, il a pris contact avec eux, même s'il n'a pas signé de contrat, puisque ça s'est fait qu'à cette période-là, on avait déjà des accords avec des joueurs bien avant la fin de la saison. Avant la fin de la saison, il avait préparé à l'avance parce qu'il savait ce qu'il voulait.
Donc on s'aperçoit que si le volley a créé des emplois, si je puis dire, puisque ce sont des salariés, ça a également engendré tout un tas d'emplois dérivés en quelque sorte du volley.
Tout à fait. Et puis vous avez toute la partie médicale aussi qu'il y a autour de l'équipe avec kiné, ostéo. On utilise des produits de la cryothérapie, donc il y a un Narbonne. Qui est disponible, il y a plusieurs centres. On cherche en permanence à bien avoir des athlètes qui soient en bonne santé physique, qui récupèrent bien de leurs efforts pour qu'ils soient toujours dans les meilleures conditions pour aborder un match.
Oui, donc il y a tout un ensemble de satellites qui tournent autour de ce sport comme autour d'autres sports davantage médiatisés.
Pour faire une belle image, ça sert à rien qu'on achète une belle Ferrari si on n'a pas le mécanicien pour vous la régler. Oui. Et ben un grand joueur c'est pareil, bon joueur c'est pareil, il faut que le jour du match il soit bien réglé pour pouvoir être performant.
Alors on sait très bien que par exemple pour jouer au rugby, il vaut mieux être assez costaud, pour jouer au volley, il faut quand même être plutôt grand comme pour le basket.
Il faut être plutôt grand, il faut être plutôt léger. Comme vous sautez énormément, et ben vous allez moins solliciter vos appuis si vous êtes plus léger. Et puis il faut avoir c'est un sport assez exigeant au niveau musculaire, tendons, articulations, très exigeant. L'épaule, vous imaginez, mais surtout les genoux, les chevilles, puisqu'on retombe sans arrêt. Donc ça veut dire une préparation physique vraiment très pointue.
Et dans le mercato, même si justement on a pris un mot étranger pour le désigner, on fait aussi souvent appel à des joueurs étrangers. Dans le volley, où est-ce qu'on va les chercher essentiellement, à part la France hein.
De la même façon, vous avez les joueurs français sont les plus chers puisque l'équipe de France est à un très haut niveau international. Donc on a du mal à trouver des joueurs français. Donc on va chercher dans les autres championnats. Il y a des pays qui sont évidemment comme le Brésil. Nous, on a un Argentin cette année aussi. Donc l'Amérique du Sud, c'est un endroit où vous avez beaucoup de joueurs de volley.
C'est un vivier aussi.
C'est
là,
un
aujourd'hui.
Vivier. Et puis vous avez tout ce qui est les pays de l'Est, la Russie, Serbie, Croatie, Roumanie. Vous avez aussi beaucoup de joueurs puisqu'il y a une culture, je dirais, des pays communistes, des sports collectifs.
Oui, là il y a une vraie culture du volley parce que certains de ces pays sont loin de la mer.
Ah oui, tout à fait. Là, par exemple, les Russes sont une des meilleures nations. Les Polonais sont une des meilleures nations de voler.
Oui. Et ça remonte à l'époque communiste, vous pensez, où il y avait des racines auparavant?
Non, je pense que c'est les sports collectifs étaient plutôt en avant.
Oui. Alors c'était par rapport à l'idéologie, ça peut se comprendre.
Tout à fait. Ouais.
Et pour. Et alors, Jérémy Ribourel, il y a quelques années que vous êtes président de ce club.
C'est ma 10e saison. Oui.
Ouais. Mais il y a quelques années, vous aviez laissé entendre que vous étiez un petit peu fatigué, et puis vous êtes ravisé. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Écoutez, je suis comme tout le monde. J'ai pris la présidence de ce club, et puis évidemment, je me suis pris au jeu, et je me suis mis à rêver d'être champion de France. Quand vous faites quelque chose, vous avez envie d'arriver au plus haut niveau. Et donc, à un moment de ma présidence, il n'y avait pas de projet de salle à cette époque-là. Et je voyais ce qu'on arrivait à faire dans notre salle et ce que notre budget nous permettait de faire avec. Et je me suis rendu compte que j'avais peu de chances d'arriver
à mes fins. Vous aviez un horizon bouché.
Voilà. Donc, j'aime bien l'associatif. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Mais disons que la compétition, pour moi, c'est important. Et puis, donc, c'est pour ça que je voulais arrêter. Et puis, donc, beaucoup de sponsors m'ont soutenu, m'ont dit non, continue, on va y arriver. Et puis le projet de Didier Molly et de la salle, évidemment, est arrivé. Et là, on s'est mis à rêver et à se dire on va peut-être arriver à nos fins. Donc, alors, l'objectif est le même.
Oui, voilà. Mais c'est ça. En fait, ce sont des circonstances et un espoir qui s'est concrétisé, qui s'est cristallisé. Quoi.
Tout à fait. Et là, je peux vous dire que, compte tenu de ce qu'on a mis en place, on espère bien que le public va aimer, mais on a fait quelque chose pour le public. Alors, on vous a parlé des VIP, des partenaires et tout ça. Ça fait partie de l'économie du sport. Aujourd'hui, on peut pas être ne pas s'en préoccuper. Mais l'élément essentiel, c'est de remplir cette salle de 3500 places. Alors, on est parti du constat qu'on avait à peu près un potentiel de 1000-1500 gens qui aiment le volley à Narbonne, mais qui viennent pas forcément au Palais du Travail parce que l'acoustique est particulièrement inconfortable, il n'y a pas toujours de la place assise, tout ça. Donc, c'est 1500 là, mais on a 3500 places. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit, il faut qu'on propose quelque chose de totalement ludique, nouveau, du spectacle, pour essayer d'attirer des familles, des jeunes, rajeunir aussi notre clientèle. Et c'est vrai qu'on est allé voir ce qui se faisait ailleurs, et ça marche. Ouais. Ça marche quand il n'y a pas que le sport pur et l'aspect technique du sport, qu'on peut mettre du temps à moi le premier, hein, puisque j'ai pas fait de volley avant d'être président, qu'on peut mettre du temps à assimiler. Par contre, ce qu'on peut assimiler tout de suite, c'est de prendre du plaisir à regarder un match, à voir tout le spectacle qu'on peut faire autour avec les danseurs, la mascotte, la musique, les images, et que les gens passent un moment fabuleux.
Et alors, justement, vous avez cité l'Arena, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitions vous avoir à ce micro aujourd'hui, Jérémy Ribourel. Donc, on entre de plein pied dans cette structure. Est-ce que vous avez un objectif chiffré? Il faut s'en méfier, c'est parfois dangereux, mais vous parliez de 1000-1500, avec une capacité potentielle de 3500, ça fait de la marge, ça. Est-ce que vous vous donnez un laps de temps pour arriver
objectif,
à tant de spectateurs?
Dès la première année, si vous voulez, la Ligue nous a beaucoup aidés, puisque la Ligue nationale de volley a accepté de nous qu'on ait nos meilleures affiches de l'année lorsqu'on serait dans la
oui, c'est-à-dire de retarder
dans
un
l'aréna.
Petit peu ce genre de personnes.
Du coup, on se retrouve avec nos trois derbies, Montpellier, Toulouse 7, le champion de France Tour, Paris, qui est forcément une belle affiche, parce que quand on reçoit Paris en province, ça fait toujours plaisir, surtout quand on les bat, et Chaumont, qui est un peu notre ennemi héréditaire, meilleur ennemi, je dirais. Et donc, on a ces 6 matchs-là. Donc, notre objectif, dès la première année, dès le premier match contre Montpellier, le 18 janvier, c'est d'être à guichet fermé, et de faire ces 6 matchs à guichet fermé, puisqu'on va avoir en même temps, on va donner l'échange, je dirais, en termes de spectacle. Donc, on veut fidéliser tout de suite les gens. On veut vraiment d'entrée, les gens se disent, le Narbonne Volley, ils sont rentrés vraiment dans un truc totalement différent.
Mais guichet fermé, pour vous, ça voudrait dire 3500?
Ça veut dire 3500, bien sûr. Il faut être ambitieux dans la vie. Et franchement, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est avec cette idée-là.
Ah oui, d'accord. Bon, alors là, voilà un objectif qui est clair, net. Et donc, alors, la structure, vous l'aurez, puisque alors, 3500, ça sera la capacité sportive.
Sportive, oui.
Sportive, puisqu'on peut aller jusqu'à près de 5000, paraît-il, certaines configurations. Et on va revenir sur alors, les spectacles. Mais je me suis laissé dire aussi en visitant cette aréna que ça m'a amusé beaucoup. le vestiaire de l'équipe narbonnaise serait un petit peu plus grand que le vestiaire des visiteurs. Est-ce que c'est vous confirmez
ça? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il n'y a pas de raison.
Donc là, il y a un petit coup de favoritisme.
Oui, on a fait un beau vestiaire pour que les joueurs se sentent bien, qu'on puisse avoir un endroit pour avoir un peu de froid pour la récupération après match. Tout ça, c'est logique, ça se fait dans tous les clubs. Club résident, je dirais, un peu plus de confort.
Donc les visiteurs ne pourront pas crier au favoritisme et à la manipulation.
Non, mais vous savez, dans le sport, tout le monde n'est pas toujours très fair-play là-dessus.
Oui, exact.
Je connais des endroits où on vous montre le chauffage dans le vestiaire pour que vous ayez très chaud avant de rentrer sur le terrain.
Ah oui.
Enfin,
oui.
Il y a des petites mesquineries comme ça, mais on n'est pas dans ce registre.
Ah oui, il y a ce genre de manœuvre quand même. Ça se pratique. Et vous parlez par expérience, vous savez.
Oui, tout à fait. Je sais d'où je parle. Oui.
On essaie de vous ramollir avant d'entrer.
C'est ça.
Voilà. Alors maintenant, justement, essayez de nous donner une petite idée. Essayez de, comme on dit, faire rêver les auditeurs qui sont potentiellement intéressés par le volley. Qu'est-ce que vous allez offrir dans les prochains spectacles
à partir de
novembre-décembre?
Le Narbonne volley, à partir du 18 janvier, ce soit un endroit de loisir. Voilà, un endroit de loisir où on vient passer un moment ludique. Mmh. C'est-à-dire qu'on veut que les gens arrivent à peu près une heure avant le match. Et pour ça, on commence avec Eco, qui sont deux frères là qui chantent dans partout, qui commencent
sur Narbonne d'ailleurs, qu'on entend beaucoup sur Grand Sud FM également,
qui vont certainement avoir une belle carrière et qui ont accepté de venir une heure avant notre premier match pour chanter.
Oui, donc là, c'est un spectacle musical.
On a scénarisé toute la soirée et donc la première partie, c'est une partie concert, donc pour essayer de faire venir les jeunes et qui viennent avant écouter ce concert et puis qu'après en suivant il y a le match. Après, pendant le match, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je peux vous dire que si vous avez déjà vu un match de basket à la télévision de NBA, il y a une mascotte très active. Alors, c'est pas une mascotte passive pour le coup. Là, c'est très active avec beaucoup de choses autour d'elle. Pour les enfants, donc évidemment, ça plaît plus aux enfants. Il y a de la danse, il y a des chorégraphies,
sur le terrain,
dans les moments. Il faut savoir que la chance du volley. C'est évidemment pour la télévision, ça marche pas très très bien puisqu'on est en forme de 7 et donc les télés savent jamais si on va jouer en 3-7 ou en 5-7. Donc.
Oui, ça c'est un peu compliqué
pour la salle et c'est notre objectif. Pour la salle, par contre, ça laisse énormément d'espace puisque vous avez un match de volley, c'est 8 secondes l'action en moyenne, 20 secondes pour retourner au service. Donc ça laisse à l'animation de la salle beaucoup d'espace pour interagir avec le public et que les gens s'ennuient pas une seconde.
Ah, il faut meubler à tout moment. Alors,
mais comme vous, quand vous écoutez une émission de radio, vous voulez pas de blanc. Eh ben, c'est la même chose.
C'est ça,
c'est la même chose.
Il faut éviter les blancs d'antenne, les blancs de scène.
Exactement, parce qu'un match. C'est pas toujours surexcitant. Il y en a parfois qui, dans le score et dans la bataille que se livrent les deux équipes, vont être particulièrement à suspense et vous n'allez pas avoir forcément besoin d'animer. Mais parfois, bon, ça peut être un peu plus plan-plan ou trop dominé d'une équipe ou de l'autre. Et donc, auquel cas, c'est bien d'avoir ce qui se passe, de faire du spectacle autour pour que les gens ne s'ennuient pas. On est là pour la somme modique de 11 € pour une place, qui sera vraiment le prix le plus cher, de pouvoir passer c'est une bonne soirée, comme quand on va voir un film américain au cinéma avec des pop-corns.
Oui, donc un prix, une volonté de prix attractif à ce
niveau-là. Ah oui, vraiment, on veut remplir cette salle, et pour la remplir, on n'est pas dans une région où le pouvoir d'achat est parmi les plus importants, donc il faut se mettre au niveau de notre public.
Donc un dernier mot pour conclure là-dessus, l'aréna va vous le permettre, parce que la structure, tous ceux qui l'ont visitée voient qu'elle sera tout à fait capable d'accueillir également vos VIP, il y aura des endroits privilégiés.
Tout à fait, des salons, des endroits pour se rencontrer, des endroits pour recevoir eux-mêmes leurs clients. Je dirais le plus important, c'est que c'est une offre qui n'existe pas à Narbonne. Je suis dans n'importe quelle profession, et notamment des professions libérales, qui n'étaient pas les clients forcément des clubs sportifs. Eh ben, j'ai 10 clients qui me font la moitié de mon chiffre d'affaires, peut-être, sur les 50 clients que j'ai, parce que c'est des clients fidèles qui me donnent beaucoup de travail. Eh ben, ceux-là, je les invite à une soirée dans laquelle ils sont reconnus, bien traités. Et c'est valorisant pour l'entreprise qui les invite, valorisant pour celui qui est invité. Donc c'est un produit qui marche très très bien.
Voilà. Et puis il faut préciser une dernière chose, c'est que dans la délégation de service public que la mairie a passée avec la société Espace, il est prévu justement que vous êtes le club phare sportif de Narbonne qui va occuper régulièrement. Je crois que vous avez des dates retenues.
Enfin, tout à fait. Oui,
tout ça tout est prévu, financé. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, j'ai envie de dire à vous d'occuper de
maintenant, on pourra plus se plaindre. Hein. On pourra plus se plaindre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut démontrer que le modèle économique du sport aujourd'hui, quand c'est pas les droits télé, il y a peu de sports qui ont des droits télé, hein, à part le football, qui
oui,
a 90% de ce qui se distribue, et le rugby qui se partage le reste avec les autres. Donc on n'a pas de droits télé, c'est pas grave. Par contre, on a un événement à Narbonne où on va financer l'ensemble de l'activité du club. Et qui, cet événement, eh ben, à nous d'en faire quelque chose qui nous permette justement de trouver ces revenus.
Voilà, et que chaque match du Narbonne Volley dorénavant soit un événement lui-même.
Exactement.
Merci Jérémy Ribouel donc d'être venu nous parler de toute cette projection vers cette aréna qui va ouvrir dans quelques mois. C'est pour novembre, ça suit son cours.
Oui, alors vous le calendrier, c'est le, je crois que l'inauguration est vers le début décembre, vers le 7. Le premier spectacle soprano, qui est déjà exceptionnel parce que c'est un chanteur, moi, que je ne connaissais pas, parce que je suis un peu, trop vieux, quoi, on va le dire. Mais que j'ai écouté et qui marche du tonnerre.
Et qui va remplir la salle parce que c'est pratiquement complet.
C'est déjà fait. Et puis nous, on interviendra après le troisième spectacle, puisque après il y a Star 80, et puis Jeff Panaclock, là, le monsieur avec la marionnette.
Voilà. Et puis plus tard, la grande jazz woman.
Voilà. Non, mais il y a plein de choses. Je crois que la salle est vraiment bien faite pour pouvoir justement s'adapter à toutes les jauges, donc voilà.
Merci encore Jérémy Ribouel. Voilà une nouvelle ère qui s'ouvre pour le sport sur Narbonne. Le prochain invité de Radio Barque, alors on revient dans du traditionnel, la politique et les responsables politiques, ce sera Didier Codorniou, maire de Gruissant, évidemment, bien connu, là où on joue au volley sur les plages, mais également premier vice-président de la région Occitanie. Merci Jérémy Ribouel.
Merci à vous.